I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达米加，正忙
着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Sophia Anastasio, Audrey Rameau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontani. Après, on poursuit donc notre série consacrée au monde paysan, après la crise agricole en Europe, après cette question des circuits courts alimentaires hier, on va s'intéresser ce matin aux luttes paysannes.
Nous avons ici une grosse délégation des paysans du monde qui sont venus dire à la COP que ce qu'ils sont en train de décider ne correspond pas du tout à nos besoins, ni aux besoins de la planète, ni aux besoins des paysans et des paysannes, ni aux besoins des citoyens et des citoyennes.
On vient du Burkina Faso pour défendre les intérêts de nos vaillants cultivateurs et paysans, afin qu'il y ait une certaine équitabilité dans les échanges commerciaux, afin d'abattre le dumping et que les échanges commerciaux permettent à nos paysans de pouvoir scolariser leurs enfants, les envoyer à l'école, les habiller, leur donner à manger, afin que chacun soit à l'aise dans sa peau.
La vía campesina es el instrumento que tenemos hoy para globalmente golpear.
La Via Campesina est l'outil que nous avons pour attaquer les politiques néolibérales et l'agrobusiness qu'on veut nous imposer et qui mène à notre disparition. Nous sommes sûrs que ce processus de la Via Campesina, ce processus mondial, va récupérer la vie et va récupérer les terres des paysans du monde.
Via Campesina, la voix paysanne, sans doute la plus emblématique de toutes les organisations paysannes transnationales. Créée en 1993 à la suite des accords commerciaux de l'ALENA, cette organisation internationale agit sur tous les continents et constitue une sorte de parrain pour bon nombre d'organisations paysannes. Elle milite pour le droit à la souveraineté alimentaire, la biodiversité, la lutte contre les OGM, mais aussi la préservation des petites structures paysannes, regroupant des millions de paysans, plus de 200 millions de paysannes et paysans à travers le monde. On la voit régulièrement dans les grands forums écologiques ou sociaux. Alors comment des luttes paysannes éparses sont-elles parvenues à se regrouper sous une bannière commune? Comment l'internationale paysanne a-t-elle pu émerger au-delà des frontières nationales et dans des contextes évidemment culturels régionaux différents? Et avec quels résultats pour les paysans du Brésil, d'Inde ou encore de France? On va s'intéresser à leur mode d'action, à ces différentes forces qui se fédèrent pour défendre leurs intérêts dans un paysage agricole mondial de plus en plus intégré où les industries agroalimentaires imposent leurs conditions aux paysans. Du Brésil aux Philippines, les nouvelles formes de lutte paysanne, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. Pour l'aborder, nous avons invité une philosophe, sociologue également, Delphine Thivet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au centre Maurice Albouax à l'ENS Paris. Vous avez procédé à une analyse croisée entre différents mouvements paysans, à la fois la Confédération paysanne en France, mais aussi le mouvement des sans terre au Brésil et puis aussi l'association des cultivateurs du Karnataka en Inde. Vous avez essayé de comprendre finalement les points de rencontre et les différences entre ces différents mouvements pour comprendre in fine comment s'est jouée cette internationalisation de la lutte paysanne. Alors on va bien sûr l'aborder dans un instant, essayer de comprendre l'émergence notamment de ce mouvement Via Campesina, mais d'abord je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la question de la figure du paysan. Parce que cette figure, elle n'a pas toujours été associée à celle du militant politique. C'est vrai, il est longtemps apparu finalement comme relativement éloigné des affaires politiques. D'ailleurs, vous rappelez dans votre thèse la vision que Marx en propose dans le 18 primaire de Louis Bonaparte, où la paysannerie est vue comme contre-révolutionnaire. Et vous écrivez « L'homme du pays apparaît dans cette perspective comme l'autochtone par excellence, enraciné à un territoire, attaché de manière primordiale à la terre, profondément individualiste et n'ayant pour dernier horizon que le clocher de sa paroisse ou l'orée du champ ». Cette vision, un peu arriérée, elle a totalement volé en éclats, Delphine Thivet. Aujourd'hui, la figure du paysan, elle est éminemment politique. On le voit depuis... Par exemple, chez nous, un José Bové ou un Evo Morales dans le monde andin, la mondialisation, finalement, elle a bousculé tous ces paysans dans l'arène politique. Et aujourd'hui, eh bien, ce paysan, il est devenu une figure du combat politique. Depuis les agriculteurs dont on parlait lundi, qui déversent du lait à Bruxelles pour dénoncer la PAC, à ces paysans sans terre du Brésil. On a l'impression que cette internationalisation de la lutte paysanne, elle a totalement renversé les représentations que l'on se fait des paysans et de leur implication, réelle ou supposée d'ailleurs, dans la vie politique.
Oui, effectivement. Donc il y a cette figure parochiale, si on prend un anglicisme pour qualifier cette figure localiste, finalement, comme vous l'avez dit, arriérée, voire conservatrice, préservatrice du statu quo, avec cette citation de Marx qui comparait les paysans français sous l'Ancien Régime à un sac de pommes de terre, en disant voilà, le fait qu'ils soient dispersés géographiquement, le fait qu'ils soient dans un isolement social, du fait de l'usage de patois ou bien d'un niveau d'éducation modeste, a fait qu'ils n'ont pas pu se doter d'une organisation politique. En même temps, donc vous dites aujourd'hui, finalement, cette figure du paysan s'est politisée. En même temps, c'est tout un cheminement depuis les années 70-80, puisqu'il y a eu une autre aussi figure plus romantique du paysan, une autre figure politique, à contrario de cette figure, de cette négativité politique hein, du paysan. Par exemple, si on prend la citation, le titre d'un ouvrage d'Eric Hobsbawm hein, qui parlait des primitifs de la révolte, avec cette image des paysans comme voués à des formes sporadiques des révoltes paysannes, des jacqueries, ce qu'on appelait les jacqueries. Finalement, il y a aussi cette forme de réaction romantique dans les années 70 avec toutes les luttes tiers-mondistes qui posaient la question, notamment dans les pays ex-colonisés ou sur la voie de l'indépendance, d'une figure là politisée, de l'intégration des masses paysannes dans des combats révolutionnaires, des combats pour l'émancipation sociale et l'indépendance. Donc comprendre alors à la fois la figure politique en tout cas qui est incarnée aujourd'hui par Via Campesina, elle est aussi l'héritière de ce courant-là, au moins dans elle s'inscrit, elle se revendique l'héritière de ce mouvement-là, bien que, comme nous allons le voir, elle prend des formes aujourd'hui renouvelées, des répertoires d'action différents.
Hein, et puis d'ailleurs, si on remonte encore un petit peu dans le temps, on se rend compte, et je l'apprends finalement en vous lisant, que cette internationale paysanne, elle a tenté d'émerger il y a déjà longtemps, il y a quasiment un siècle, dans les années 1920.
Oui, ce n'est pas quelque chose de... Historiquement, ce n'est pas quelque chose d'inédit absolument, dans la mesure où il y avait, oui, dans les années 20, à la fois une internationale verte en Bulgarie, hein, je crois qu'elle a été créée en 1927, et d'autre part, la version paysanne du Comintern à Moscou. Cependant, ces deux tentatives d'internationale n'ont pas laissé de traces. Elles sont
Pourquoi est-ce qu'elles ont échoué?
Alors, elles étaient liées très fortement au parti communiste de ces pays-là, donc, et elles se sont écroulées dans les années, au moment de la crise de 1929, à ce moment-là. Elles étaient assez limitées. Donc véritablement, Via Campesina, c'est une autre tentative, si l'on peut dire, d'internationale paysanne, qui a aujourd'hui quand même, je crois, 23 années d'existence, ce qui est quand même remarquable pour un mouvement social.
Et puis c'est un mouvement en plus qui prend de l'ampleur, par ailleurs. Alors on verra tout à l'heure avec quel bilan, mais je le disais tout à l'heure, 200 millions de paysannes et de paysans représentés par cette entité. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut la qualifier. On va voir d'ailleurs ça dans un instant. Vous rappeliez donc que Via Campesina voit le jour en 93 lors du congrès de l'Union nationale des agriculteurs et éleveurs. On est au Nicaragua. On a une multitude d'organisations paysannes qui viennent du monde entier, d'Amérique centrale, du Nord, d'Europe. Tout le monde est présent et tous se mettent d'accord pour rassembler leurs forces. Considérant que finalement, eh bien, leurs difficultés sont pas si éloignées, que par ailleurs, ils ne sont pas concurrents les uns avec les autres. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui, à l'époque, va faire que ce mouvement va pouvoir se coaguler? Finalement, d'où vient l'initiative? Est-ce que ce sont les paysans du Nord? Est-ce que ce sont les paysans du Sud? Je caricature un petit peu, mais volontairement.
Précisément, cette internationalisation n'est pas unilinéaire. Elle a été le produit, le résultat finalement de convergence, de concomitance et d'un travail de coalition qui a duré peut-être près d'une décennie. En tout cas, qui a véritablement commencé à s'accélérer au moment de l'ouverture du cycle de l'Uruguay, hein, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ce qu'on appelle en anglais le GATT, qui est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'agriculture est intégrée dans le projet de négociation multilatérale du commerce. Donc c'est véritablement à ce moment-là que les tentatives, enfin le travail déjà militant qui avait été accompli, donc on pourra peut-être y revenir par la suite, mais en ce moment-là, Vous parliez d'une coagulation, et véritablement, il y a une coalescence à ce moment-là de différents mouvements, syndicats du Nord et du Sud, dans un contexte de guerre, véritablement de guerre commerciale entre notamment les États-Unis et l'Europe, ce qui s'appelait à l'époque la communauté économique européenne, avec un vocabulaire très, très belliciste. Et il retourne finalement, il découvre, finalement à partir d'une même inquiétude sur les conséquences de cette ouverture des marchés agricoles, ouverture internationale, la réduction des barrières douanières, il découvre qu'ils sont confrontés à des problèmes communs qu'ils pourraient se rassembler, trouver que finalement leur adversaire, l'adversaire du paysan du Sud n'est pas le paysan du Nord, et réciproquement, et que c'est plutôt une lutte entre deux modèles agricoles antagonistes.
Oui, donc finalement, le succès de Via Campesina, c'est à la fois le contexte qui est propice finalement à l'émergence de cette force, comme si finalement l'heure de l'internationale paysanne était venue. Parce que, effectivement, le libéralisme effréné pousse à cette coagulation, justement. Regardons un petit peu la nature même de cette organisation. Parce que vous dites que ce n'est pas vraiment un syndicat. Vous dites que c'est un mouvement qui s'organise de façon décentralisée. On a 9 régions à travers le monde. On a une coordination entre les différentes régions qui est assurée par un comité de coordination internationale. Et régulièrement, je crois que c'est tous les 4 ou 5 ans, on a un secrétariat opérationnel qui passe d'un pays à l'autre, qui est passé du côté de la Belgique, du Honduras, de l'Indonésie. Votre regard sur ce modèle d'organisation, est-ce qu'il est, selon vous, de nature finalement à porter la voix VEX de tous, et d'assurer justement un processus décisionnel, disons, juste, équitable.
C'était véritablement le défi de ce que vous citiez au début de votre présentation, sur le défi de former des mouvements de cultures différentes, d'héritages militants aussi différents. Et cette forme, finalement, alors c'est pas moi qui parle d'un mouvement, c'est finalement je reprends les termes indigènes, c'est-à-dire c'est les termes même des militants eux-mêmes qui ont beaucoup insisté sur cette dimension, cette labellisation de mouvement social.
Qu'est-ce qui gêne alors dans le terme syndicat ?
C'est pas véritablement syndicat, mais c'est plutôt le souvenir historiquement chez un certain nombre de militants, donc des fondateurs de Via Campesina, des expériences historiques des fédérations syndicales de type très bureaucratisé, dont la plupart avaient leur siège, et d'ailleurs ont toujours leur siège social, si on peut dire, dans les pays du Nord. Et c'est l'idée de créer, d'innover, de créer un modèle alternatif. Puisque l'idée, c'est d'être en cohérence avec ce que ces militants défendent, les intérêts des petits et moyens paysans du Nord et du Sud, donc en décidant d'avoir un siège social tournant, comme vous l'avez dit, d'abord de manière informelle à Bruxelles, en Europe, puis au Honduras, ensuite en Indonésie et maintenant au Zimbabwe. Donc là, c'est véritablement aussi donner la chance à plusieurs organisations de se réapproprier Via Campesina, d'apporter aussi leur propre, d'enrichir aussi cette internationale paysanne à partir de leur propre tradition de lutte aux militants.
Est-ce que dans ce refus, dans ce rejet du terme, du modèle finalement syndical, il n'y a pas aussi un désir, d'une certaine manière, d'émancipation par rapport à des modèles des partis ouvriers, des partis communistes, etc., toutes les institutions finalement partitaires, est-ce qu'il y a aussi cette idée-là ?
Oui, parce que une grande partie des fondateurs de Via Campesina, si on prend le cas du mouvement des Sans Terres, mais aussi dans le cas indien que j'ai étudié, il y a cette volonté d'avoir des structures syndicales ou des instances de défense des intérêts des paysans ou des Sans Terres indépendantes des partis politiques. Donc ça veut dire aussi, y compris des partis politiques de gauche, voire les communistes, et se déprendre d'une vision assistentialiste du syndicalisme, corporatiste. Donc c'est effectivement une critique une volonté d'émancipation, de créer des mouvements autonomes. Et cette revendication d'autonomie a toujours été très forte dans la création de Via Campesina. Ouais.
Et d'ailleurs, ce sentiment-là, il est déjà présent finalement dans les différentes entités nationales et régionales qui vont se rassembler dans Via Campesina. Vous dites que quand on regarde les points communs entre les trois entités que vous avez étudiées, c'est-à-dire la Confédération Paysanne en France, le Mouvement des Sans Terres au Brésil et puis l'Association des Cultivateurs du Karnataka en Inde, vous dites que le point commun, c'est que leur émergence, disons dans les années 70-80, il a instauré une nouvelle concurrence au sein des instances prétendant habituellement à la représentation de la paysannerie dans leur champ national respectif. Donc on a déjà ce sentiment-là.
Voilà, c'est déjà
cet effort
au niveau national. Ce sont dans ces trois cas étudiés, ces trois cas partagent une position d'homologie dans le sens où ce sont toutes trois, trois organisations, partagent cette volonté de dissidence par rapport à ces instances qui accaparaient finalement la parole des paysans. Et donc, ça vient de cette insatisfaction. Mais ça se reproduit également sur la scène internationale. Quand Via Campesina est créée, c'est aussi une volonté de se distinguer d'une fédération qui s'appelle, l'acronyme c'est la FIPA, la Fédération Internationale des Producteurs Agricoles, qui depuis la Seconde Guerre mondiale, elle a été créée à la suite de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 45-47, par plutôt des riches agriculteurs du Nord, pour le dire, la plupart des dirigeants de cette fédération étaient constamment soit des Canadiens, des Occidentaux, pour dire vite. Et ils ont été très présents dans les instances onusiennes. Enfin, ils ont finalement été la seule instance de représentation des paysans. Mmh. Donc c'est cette volonté de proposer une voie alternative, VOIX, effectivement. Et notre volonté d'autonomie aussi de Via Campesina, c'est vis-à-vis des ONG.
Oui, parce que vous dites que la naissance de Via Campesina, elle se fait aussi, elle naît d'une rupture profonde au sein de la Fondation Paulo Freire, qui est une ONG hollandaise. En fait, certains veulent que Via Campesina ne soit qu'un espace de réflexion, alors que d'autres veulent véritablement une entité, un véritable acteur politique capable de prendre des décisions. Vous nous parlez un petit peu de cette discorde fondatrice, finalement.
Oui, et qui finalement se rejoue toujours dans cette revendication d'autonomie, même s'il y a des collaborations avec les ONG encore aujourd'hui. Mmh. Il y a des formes d'alliance de bonne entente aussi de Via Campesina avec les ONG alliées, entre guillemets. Mais pour revenir à cette rupture fondatrice, effectivement, même le nom même de Via Campesina vient d'un programme de développement rural développé par cette ONG hollandaise, même si le nom ne l'indique pas, puisque c'était la fondation Paulo Freire, donc aussi
brésilien.
Référence au fondateur de la pédagogie des opprimés. Donc on voit aussi qu'on est dans une... Donc cette ONG était active au Nicaragua. On verra tout à l'heure peut-être la question du Nicaragua. Et effectivement, il y avait cette rencontre fondatrice, cette organisation a joué un rôle pour financer, permettre la rencontre à la fois de syndicalistes d'Amérique centrale et de syndicalistes européens, et organise en 93 une rencontre paysanne internationale avec, je crois, une cinquantaine d'organisations à Mons, en Belgique. Et c'est à ce moment-là que, finalement, les représentants paysans se trouvent enfin une opportunité très inédite de discuter entre eux, et ils décident de s'émanciper de cette tutelle, finalement, un peu paternaliste de la part de cette ONG, et de dire, notre revendication d'autonomie, elle est aussi de ce point de vue-là, c'est qu'on veut avoir un programme beaucoup plus radical que simplement, effectivement, adhérer à la FIPA, ce qui était notamment à l'époque le projet proposé par cette ONG.
Alors, un programme radical, quand on... Regardons les choses qui fâchent, Delphine Thivet, regardons le bilan de cette internationale paysanne. Quelles sont les grandes avancées obtenues par Via Campesina ? En termes de souveraineté alimentaire, en termes d'accès à la terre.
Alors, il n'y a pas proprement de bilan par Via Campesina. Via Campesina n'existe que par les organisations nationales. Et finalement, s'il y a une victoire de Via Campesina, effectivement, c'est, je crois, l'émergence d'une représentation paysanne, d'une cause paysanne visible, légitimée au niveau international.
Et, la victoire, c'est d'avoir permis son existence.
Oui, et sa visibilité. De l'avoir effectivement formalisé, de l'incarner même par des l'investissement dans, peut-être on va y revenir, sur, dans des instances onusiennes. Et ce n'est pas la moindre des victoires, parce que...
Ah, mais c'est une victoire importante, mais il y a quand même un programme, vous le disiez. Il y a effectivement cette présence et le fait que c'est devenu un interlocuteur privilégié, justement, et notamment dans les instances onusiennes. Du coup, on a envie de voir ce programme à l'action et de voir des avancées concrètes sur le terrain. Quand on regarde, par exemple, cette initiative qui avait été prise par Via Campesina d'obtenir une convention sur les droits des paysannes et des paysans, son coordinateur à l'époque, un Indonésien, Henry Saragi, avait fait la demande carrément à la tribune des Nations Unies. C'était bien pour atteindre son but et avoir, in fine, cette convention déclarée par l'ONU.
Oui, alors ça c'est un projet qui date depuis les années 2000. Nous sommes en 2016. C'est un projet qui s'inspire de la Déclaration des droits des peuples autochtones, qui a elle-même mis plus de 20 ans avant d'être adoptée en 2007. Donc ça c'est tout un travail juridique pour transcrire la cause paysanne. Donc en termes juridiques, elle va aussi donner des outils à la fois une forme d'universalisation de la cause paysanne et lui donner aussi des outils juridiques de pression ensuite sur les États donc malheureusement au départ le projet initial était une convention qui est beaucoup plus dans le droit international beaucoup plus contraignant, donc on voit aussi l'édulcoration finalement du projet en raison d'une série de contraintes et c'est un processus très long je l'espère, l'avenir nous le dira, aboutira ou non, mais durée, elle est à prendre en compte.
Ce qui est intéressant dans cette affaire Delphine Thivet, c'est aussi le mode l'outil utilisé pour atteindre ce but. Vous dites qu'il y a un outil que les Anglais appellent l'advocacy, qu'on pourrait traduire par plaidoyer, qui est de plus en plus utilisé par cette internationale paysanne. Il y a une rupture stratégique à un moment où on va se dire que finalement le meilleur moyen d'arriver à ses fins, c'est de passer par cette forme de plaidoyer.
Je crois que c'est la seconde proposition que vous formulez. C'est plutôt de diversifier les outils de pression, hein, que ça soit le fait de faire ce travail de plaidoyer au sein des instances onusiennes, n'empêche pas de continuer les actions de masse, les manifestations, voire l'occupation d'entreprises agroalimentaires, le fauchage de champs d'OGM, etc. Donc c'est vraiment une complémentarité dans le répertoire d'action, mais évidemment ça ne nécessite pas des mêmes ressources de la part des militants. Donc ça implique une formation, une évolution aussi des techniques, une forme d'expertise aussi, parce que voilà, ce n'est pas rien de devoir parler, négocier ou aborder des diplomates ou des hauts fonctionnaires internationaux. Et c'est donc, je dirais, c'est plutôt un complément
Vous dites que Via Campesina utilise donc l'advocacy, cet art du plaidoyer finalement, de façon oblique. Qu'est-ce que vous entendez par là, oblique? Je comprends le mot oblique, mais...
Oui, c'était une manière de qualifier en disant que finalement, cette pratique de l'advocatie au départ vient, c'est ce que montre la revue Critique Internationale dans laquelle j'ai écrit un article qui a été coordonné par Étienne Ollion et Johanna Siméon.
La revue numéro 67 d'avril-juin 2015.
Et c'était dans ce numéro, c'était essayer de comprendre comment le plaidoyer qui au départ initialement venait du monde de l'aide international s'est trouvé de manière croissante réapproprié par une série de mouvements, dont Via Campesina.
Vous dites que l'origine vient d'Indonésie.
Alors, l'origine du projet de convention des droits des paysans et des paysannes vient d'Indonésie. Là aussi, c'est pas neutre. Pourquoi cette importance de transcrire la cause paysanne dans le langage juridique? Pourquoi effectivement utiliser le langage des droits et pourquoi ça vient d'Indonésie? C'est intéressant parce que c'est aussi le fruit du contexte indonésien qui fait qu'avec la dictature de Suharto, les militants communistes qui participaient aux luttes paysannes se sont trouvés complètement décimés. Et finalement, en 98, à la fin de la dictature, c'est ce qu'on appelle la réformatie en Indonésie, il y a eu un renouveau des libertés syndicales. Et à ce moment-là, le seul répertoire d'action, c'était les droits, le langage des droits. Voilà.
Ceci dit, si ça venait d'Indonésie, là aussi, il y a eu beaucoup de débats. Parce qu'il y avait les partisans du plaidoyer, de l'advocacy, mais il y avait aussi les opposants. Il y a eu des luttes internes très fortes, justement, portant sur les limites de cette stratégie.
Oui, en tout cas, peut-être Via Campesina est composée à la fois d'une multitude d'organisations avec des héritages différents. Du côté sud-américain, il y avait beaucoup plus de scepticisme. Il faut voir que dans les contextes de dictature sud-américain, souvent, les dictatures se sont appuyées sur un ordre juridique. Donc, il y a une forme aussi de scepticisme de ces militants en disant « Oui, on a beau avoir une façade juridique, mine de rien, ça n'empêche pas que... finalement, ce n'est qu'une façade. » Et donc, il y avait cette forme de scepticisme vis-à-vis de ce langage des droits, qui est aussi un droit qui demande une expertise juridique, donc qui demande des alliances, qui demande des traductions multiples, finalement.
Et puis, on peut aussi s'interroger sur les effets, les résultats obtenus. Je parlais de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, qui n'existe toujours pas. C'est quelque chose qui, finalement, donne du crédit à tous ces paysans, tous ces membres de Via Campesina, qui émettent quelques doutes sur cette stratégie-là. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a de nombreux paysans qui considèrent qu'il y a une forme de dépolitisation possible derrière ce mode d'intervention, une forme de déradicalisation de la cause.
Oui, mais je nuancerai malgré tout, c'est le point qui est dans mon article. Mais au final, c'est quand même, dès l'origine, ce projet avait été vu comme un outil pour mettre en visibilité les discriminations, la marginalisation, les violations des droits humains vécues, subies par les paysanneries de par le monde, notamment dans les pays dits du Sud, notamment sur le cas du Brésil, mais peut-être on va parler de la Philippine. Mais malgré tout... Je crois qu'aujourd'hui, la situation évolue et j'ai l'impression que ce projet est quand même d'une portée symbolique très, très importante et qui compte aussi aux yeux des militants.
On est avec Delphine Thivet, sociologue, auteure de cette thèse autour de l'internationalisation des luttes paysannes, la Via Campesina, une analyse croisée donc où vous évoquez le cas de la France, du Brésil, de l'Inde, les mondes paysans du Brésil aux Philippines, les nouvelles formes de lutte paysanne. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Mexico is under siege. A plot to poison the minds and hearts of our people, to turn them into religious fanatics, this evil, this threat, it will not be tolerated.
Why are you here?
We want to be cristeros.
Cristeros?
Yes.
We are going to send a message that freedom is our lives. And we will defend it or die trying. Que viva Cristo Rey! Que viva Cristo Rey!
Oui, extrait de ce film Cristeros de Dean Wright, sorti en 2012, un film dont le scénario s'appuie sur la guerre des Cristeros, ce soulèvement paysan mexicain contre le gouvernement, une rébellion qui éclate un petit peu partout de façon éparse et puis qui va se cristalliser dans un mouvement un peu général qui atteint son apogée en 1929. Bonjour Hélène Roux.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, journaliste, spécialiste de l'Amérique centrale. On est là finalement avec Cristeros dans la continuité de la révolution mexicaine des années 1910, dont Emiliano Zapata évidemment était la figure de proue. Une révolution qui aboutit, rappelons-le, à une série de réformes agraires. L'accès à la terre est déjà finalement l'un des moteurs de l'action insurrectionnelle. Finalement, au Mexique, la lutte armée pour la terre, elle est menée depuis plus d'un siècle. Elle a jamais complètement cessé, Hélène Roux.
Non, en réalité, non. Cela dit, je pense qu'il faut... le mouvement des Cristeros est un mouvement très, très particulier dans l'histoire du Mexique, mais qui soulève aussi des questions qui ont à voir avec les différences justement de perception et la façon dont les paysans se perçoivent ou sont perçus ou revendiquent et leur demande d'accès à la terre et surtout la façon qu'ils ont de le face-à-face qu'ils ont constamment avec l'État et avec le pouvoir.
Rappelons Hélène Roux que le Mexique le Mexique est le premier pays à inscrire l'usage social de la terre dans sa constitution.
Oui, parfaitement, puisque en fait, il faut rappeler quand même que la révolution mexicaine est la première révolution du XXe siècle, et c'est une révolution qui se fait principalement sur des revendications agraires, c'est-à-dire que à différence des révolutions qu'on a vues plus tard, notamment la révolution russe, qui s'est appuyée sur les forces, disons, ouvrières et industrielles, la révolution mexicaine s'appuie principalement sur des forces rurales et paysannes.
Alors, dans le sillage, justement, d'Emiliano Zapata dont je parlais, on a plus récemment l'armée zapatiste de libération nationale qui se crée dans les années 90. C'est pas d'ailleurs n'importe quelle date, puisque c'est le 1er janvier 94 qui est la date de l'entrée en vigueur de l'ALENA, l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. On se souvient, donc, bien sûr, de ces combattants zapatistes, visage caché par ce fameux passe-montagne, déclaré la guerre au gouvernement fédéral et à son armée, notamment, évidemment, le sous-commandant Marcos. Cette armée de néo-zapatistes, elle représente, j'allais dire, les droits des populations indigènes, mais aussi finalement de toutes les minorités. Cette organisation, elle devient le symbole, l'un des symboles en tout cas de la lutte altermondialiste. D'une certaine manière, ces néo-zapatistes, c'est la branche armée de l'organisation Via Campesina dont on parlait avec Delphine Tivet. D'ailleurs, tout ça prend corps en même temps.
Alors non, moi je n'irai pas jusque-là parce que d'ailleurs les relations entre le mouvement zapatiste, disons, et Via Campesina ne sont pas très très simples.
C'est-à-dire
Elles sont problématiques dans la mesure où, Delphine l'a dit, Via Campesina est quand même une organisation très très hétérogène et en particulier les organisations membres de Via Campesina au Mexique n'ont pas vraiment suivi, disons, la même stratégie que le mouvement zapatiste a pu le suivre. Mais alors, par contre, pour parler de ce mouvement zapatiste, qui est intéressant quand même de constater, c'est que une des principales raisons du soulèvement, c'est justement dans la perspective de la signature de l'ALENA par le Mexique, est adoptée 2 ou 3 ans avant une réforme à l'article constitutionnel de la Constitution mexicaine qui justement consolidait la réforme agraire. Donc du coup, cette réforme à la Constitution, elle met fin de fait à cette sécurité et à cet usage social de la terre, et elle ouvre la porte à une possible privatisation des terres qui jusque-là étaient pas en majorité, mais enfin pour une très grande partie reconnue d'usage social.
Et pourtant, la question foncière, la question de l'accès aux terres, elle va peut-être devenir de moins en moins importante, paradoxalement, dans ce mouvement-là. Parce que la grande différence avec la lutte originelle, c'est que finalement, aujourd'hui, les zapatistes du Chiapas mexicain, ils se battent désormais pour la reconnaissance de droits culturels, sociaux, économiques, environnementaux, à l'intérieur d'un État, d'ailleurs, dont ils ne contestent plus la légitimité. Et la question paysanne, la question des terres, elle est beaucoup moins prégnante aujourd'hui.
Moi je suis de l'avis contraire, parce que je pense que justement un très grand nombre.
Alors elle est peut-être parasitée par d'autres considérations alors.
Oui, parce que moi je pense que justement un très grand nombre, enfin certains, disons, chercheurs et sociologues n'ont voulu voir dans le mouvement zapatiste notamment que une question culturelle, ou principalement une question culturelle. Or, il s'est très vite révélé, et même depuis le début, qu'il s'agissait quand même d'une question foncière principalement. Et d'ailleurs, une des premières actions très fortes des zapatistes est d'occuper des terres de façon massive dans l'état du Chiapas. Et c'est même tellement vrai que d'autres mouvements qui n'étaient pas forcément zapatistes, mais d'autres organisations locales ont emboîté le pas et ont profité de l'opportunité, disons, pour occuper des terres aussi. Mmh, mmh.
Vous restez avec nous, on va évoquer dans un instant le cas du Guatemala, du Nicaragua et du Honduras, mais Delphine Tivet, je voudrais vous entendre sur le cas de ce Mexique et en particulier de ce néo-zapatisme et de son rapport à la question agraire.
Alors, les liens de Via Campesina avec la lutte zapatiste à ses débuts, du moins voilà, en 1994, il y avait des liens entre, par exemple, des militants tels que José Bové ou Nanjandu Swami, qui est le leader de l'association des cultivateurs du Karnataka.
Oui, on se souvient de la rencontre entre José Bové et le sous-commandant Marcos. Hein.
Voilà, et donc il y avait aussi ce leader indien et d'autres leaders d'autres pays. Il y a eu des liens entre certaines organisations de Via Campesina. Donc effectivement, comme Hélène Roux le précise, les organisations de Via Campesina au Mexique sont sur un autre modèle, sont plus modèle plus institutionnel. Mais sur la réforme agraire, ça c'est véritablement une bannière globale du mouvement. Il va y avoir là en avril prochain une conférence organisée par la Via Campesina à Brasilia sur la réforme agraire. Donc ça, depuis le début, depuis le commencement du mouvement, la réforme agraire est une revendication très importante, donc, qui comprend non pas seulement l'accès à la terre, hein, ce qui est évidemment la première condition pour être un paysan, mais ce n'est pas suffisant, on le voit dans le cas du mouvement des sans-terres, c'est aussi après l'accès à des conditions de production viable, donc l'accès au crédit, à l'irrigation, etc.
On parlait, Hélène Roux, du Mexique et de cette réforme agraire. Cette résistance des paysans mexicains, elle va donner des idées aux pays voisins, notamment du côté du Guatemala. On va d'ailleurs essayer d'engager là aussi une réforme agraire, mais elle va se heurter, je crois, à des intérêts supérieurs, hein, dans ce cas, Hélène Roux.
Oui, effectivement, en 1944, le Guatemala élit un gouvernement progressiste qui était représenté par le président Juan José Arévalo et dont une des premières préoccupations est effectivement d'impulser une redistribution de la terre et une redistribution agraire et cette tentative va être frustrée 10 ans après, en 1954, par un coup d'État qui a été, à l'époque, donc directement ou très très largement soutenu par les États-Unis et en particulier par des représentants de la United Fruit Company qui était à l'époque très présente au Guatemala et aussi dans les autres pays de la région.
Vous expliquez, Hélène Roux, que dans les années 60, dans les gouvernements militaires d'Amérique centrale, au Nicaragua, au Honduras, les régimes dictatoriaux vont parvenir à contenir, en tout cas en partie, la colère des paysans en leur proposant de nouvelles terres tout en préservant celles qui servaient leurs propres intérêts. En gros, on a eu recours à ce que vous appelez des méthodes de colonisation interne.
Oui, parfaitement. Effectivement, il s'agissait de diminuer la pression sur les grands latifundias et de profiter de terres qui n'étaient pas exploitées ou disons qu'on pensait non exploitées ou sans propriétaire pour déplacer un certain nombre de populations ou les inciter à s'installer donc dans ce qu'on appelait des terres vierges ou terres nationales. Alors il y a eu les deux termes. Ça a été particulièrement le cas au Nicaragua, mais ça a été aussi le cas au Honduras et ça a été aussi le cas au Guatemala dans ce qu'on a appelé la frange transversale du Nord. Au Honduras, on a incité les paysans à s'installer donc dans la partie atlantique du pays et de la même façon au Nicaragua.
Pendant les années 80, Hélène Roux, on se souvient bien sûr que cette Amérique centrale, elle a été le théâtre d'un affrontement entre l'Occident et l'URSS. La révolution sandiniste au Nicaragua, c'est l'une des pages les plus tendues de la guerre froide. Vous avez l'air de considérer qu'aujourd'hui, la région pourrait devenir le lieu d'un affrontement économique entre le Nord et le Sud. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement et quelle pourrait être la place des paysans dans cette bataille économique?
Ben, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'Amérique centrale est un point stratégique très très important. Il l'a toujours été historiquement, de passage entre l'Asie et les pays occidentaux, et surtout les enjeux économiques qui en découlent. Et actuellement, on est dans une époque, disons, de flux de marchandises et de transport, beaucoup plus que d'ancrage productif dans un endroit ou dans un autre. Donc actuellement, on a eu historiquement le canal de Panama. Actuellement, il y a de nouveaux projets, notamment un canal interocéanique au Nicaragua, mais aussi depuis quelques années, des projets et des grands, ce qu'on appelle des grands corridors secs, c'est-à-dire des voies de transport entre la côte atlantique et la côte pacifique de l'Amérique centrale, un petit peu partout.
Qui sont d'ailleurs souvent des projets, pardon de vous couper, portés par des investissements étrangers, par ailleurs.
Qui sont portés par des investissements étrangers et très fortement soutenus par les organismes de coopération au développement, qu'ils soient originaires des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne. Et puis, on a, depuis quelque temps, un certain nombre d'intérêts qui viennent plutôt d'Asie et en particulier de la Chine.
Vous pensez à quoi?
Et du Brésil. Il faut le dire aussi. Donc il y a là une convergence, disons, d'intérêts qui redessine effectivement les affrontements et les luttes d'intérêts qui ne sont pas des affrontements d'ailleurs idéologiques, mais plutôt ce que j'appellerais moi des rivalités économiques.
C'est-à-dire qu'en gros, on essaye de préserver avant tout l'intérêt à la fois des grands propriétaires et aussi des investisseurs étrangers, je le disais, c'est ça l'objectif.
C'est ça l'objectif, et je crois que l'objectif, il s'adapte aussi à une vision beaucoup plus extractive, disons, de la production et de la production agricole et des terres dans toutes leurs dimensions, puisque on peut parler aussi bien de culture extensive que de développement de grands projets touristiques que d'extraction minière. Donc on a une division en fait de l'Amérique centrale par région, avec un certain nombre d'enclaves qui sont dédiées à différents secteurs de production et qui sont reliés entre eux par de grandes routes, qu'elles soient aquatiques ou sèches, enfin que ce soit des routes normales ou des trains d'ailleurs, qui visent justement à acheminer les marchandises de l'Asie aux États-Unis, voire à l'Europe.
Delphine Thivet, encore une réaction sur cette Amérique centrale, et puis peut-être un jeu de miroir avec le Brésil, où d'une certaine manière les enjeux sont assez comparables en réalité.
Oui, Hélène Roux a évoqué en Guatemala la colonisation interne. Ça a été aussi un phénomène qu'on a trouvé.
On a vu au Brésil.
Sous la dictature militaire. Le mouvement des sans-terres est né précisément au moment où, à la fin des années 70, la dictature militaire a proposé à un ensemble de colonos, les petits paysans d'origine européenne, donc immigrés, on leur a proposé, vous ne pouvez plus vous reproduire socialement, les minifundios ne peuvent plus être divisés entre les héritiers. Finalement, aller coloniser l'Amazonie, une terre qui était qualifiée une terre sans hommes, donc pour des hommes sans terre, c'était la formule utilisée à l'époque.
Depuis chaque année, d'ailleurs, Delphine Thivet, le 17 avril, c'est la journée mondiale des luttes paysannes. C'est une date qui a été choisie en souvenir de l'assassinat de 19 paysans sans terre, justement, qui ont été tués en 1996 par des groupes paramilitaires. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots cet événement qui nous permet aussi de comprendre finalement l'émergence de ce via campesina, de cette paysannerie internationale.
Alors malheureusement, ce massacre, donc il est aussi, il s'ajoute à une série d'assassinats de leaders paysans au Brésil, la Il y a notamment une instance qui s'appelle la Commission pastorale de la terre au Brésil qui recense les violations des droits humains subies par les paysans, les leaders syndicaux, ruraux. Mais ce massacre, il est intervenu effectivement en 17 avril 1996, au moment où une marche était organisée par donc des paysans sans terre pour réclamer l'accomplissement, l'avènement de la réforme agraire qui peine toujours à être mise en œuvre. Et donc il y a eu entre 19, finalement il y a eu 21 personnes assassinées par la police militaire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une forme d'impunité par rapport à ça. Et il se trouvait que Via Campesina tenait sa deuxième conférence internationale au Mexique au même moment. Et donc, ils ont été très, évidemment très choqués. Et ils ont proposé donc d'instituer le 17 avril journée mondiale des luttes paysannes, qui est donc aujourd'hui se trouve réappropriée. C'est une sorte de 1er mai, hein, une forme de calendrier commun à toutes les organisations paysannes qu'elles se réapproprient en fonction de leur lutte locale, nationale. Il n'y a pas d'imposition d'une problématique particulière. Enfin, si souvent, il y a quand même une grande bannière chaque année qui est définie.
Est-ce qu'on a, Hélène Roux, du côté du Guatemala, du Nicaragua, du Honduras, ce phénomène aussi d'assassinat de paysans? Ou est-ce que ça reste quand même marginal?
Non, ce n'est pas marginal du tout. Et en particulier au Guatemala, mais surtout au Honduras, où il y a une lutte très importante qui se mène justement dans cette région qui a été... dans les années 60 et 70, disons, colonisés de façon interne par les paysans et où on les avait incités notamment à produire en coopérative de la palme africaine. Aujourd'hui, et à partir des années 90, à la suite des mesures et des réformes qui ont permis la privatisation de la terre, ces terres ont été récupérées par de grands propriétaires terriens et industriels de la transformation notamment de l'huile de palme, et il s'en est suivi des mouvements donc d'occupation de terres, de résistance paysanne qui sont extrêmement violents et meurtriers pour notamment les paysans
Et comment les politiques ont répondu à ce défi?
Par une militarisation de la région, la région du bas Aguan, donc puisque c'est de celle-là qu'il s'agit au Honduras, est totalement militarisée. Et il y a eu plus de 200 paysans organisés, assassinés depuis 2009, en gros.
C'est une situation là aussi comparable avec le Brésil, Delphine Tivet.
Oui, très comparable. À cela, on pourrait aussi ajouter une autre forme de subit aussi la question des suicides. Hein. Si je repars sur le terrain asiatique et indien notamment, c'est une autre forme d'assassinat, mais de suicide par les paysans, c'est qu'il y a aussi une problématique, même en France, qui est assez importante.
On n'a pas le phénomène de militarisation du côté de l'Inde?
Si, enfin, si. Il y a quand même le mouvement des Naxalites, qui est une guérilla de type maoïste, marxiste-léniniste. Donc il y a une très forte confrontation aussi avec le pouvoir militaire.
Mais peut-être moins...
Mais là, ce n'est pas des membres de Via Campesina.
Oui, oui. Ouais. Merci beaucoup à vous, Hélène Roux, d'avoir été avec nous. Je rappelle, donc, vous êtes journaliste, spécialiste de l'Amérique centrale. Et un grand merci à vous également, Delphine Tivet, d'avoir été avec nous.
Les paysans ici aux Philippines se battent pour la terre et la justice. Il ne peut y avoir.
Soy un pobre campesino destrozado. Por mi pueblo y mi familia yo he luchado. Nos invade la miseria y la pobreza. Y nadie entiende la razón de mi protesta. Porque yo sé que una negra falsedad me está mandando. Y somos gente que cultiva nuestros campos. Y están que ya no aguantan más, quieren su pueblo en libertad. Pues todo el mundo habla de paz, pero las ratas pueden más. Con su poder y con su smart me están matando.
Je rappelle bien sûr Delphine Thivet que l'on peut lire notamment cet article dont on a parlé ensemble, Critique internationale, cette revue comparative de sciences sociales numéro 67 parue en avril-juin l'année dernière. Merci infiniment d'être passé dans nos studios.